Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle qui est parmi les plus connues de celles qui ont été écrites par Tchekhov, La Dame au petit chien. La Dame au petit chien, ça a été écrit en 1899. Tchekhov est né en 1860, il est mort en 1904, il est mort très jeune. Et cette Dame au petit chien se situe quelque part, enfin, en Crimée, à Yalta. Le bruit courait qu'un personnage nouveau avait fait son apparition sur la promenade du quai. Une dame avec un petit chien. Dmitri Mitrigourov, qui était à Yalta depuis déjà 2 semaines, s'y sentait un habitué, commençait lui aussi à s'intéresser au nouveau venu, assis à la terrasse. Il vit passer sur la promenade une jeune femme blonde, de taille moyenne, coiffée d'un béret. Derrière elle courait un loulou blanc de Poméranie. Ensuite, il la rencontra au jardin public, au square, plusieurs fois par jour. Elle se promenait seule, toujours coiffée du même béret, suivie du loulou blanc. Personne ne savait qui elle était, on l'appelait simplement la dame au petit chien. Si elle est ici toute seule, sans mari ni ami, pensait Gourov, ce pourrait être intéressant de faire sa connaissance. Bien qu'il eût moins de 40 ans, il avait déjà une fille de 12 ans, 2 fils qui allaient au lycée. On l'avait marié jeune quand il n'était encore qu'étudiant en 2e année, et maintenant sa femme paraissait avoir une fois et demi son âge. C'était une grande femme, aux sourcils sombres, à l'air raide, digne, imposant, et comme elle le disait elle-même, une intellectuelle. Elle le lisait beaucoup, appelait son mari Dimitri. Lui, dans son fort intérieur, la jugeait bornée, mesquine, sans élégance. Il la craignait et n'aimait pas rester chez lui. Il la trompait déjà depuis longtemps, il la trompait souvent. Et c'est pourquoi, sans doute, il disait presque toujours du mal des femmes. Et lorsqu'on en parlait devant lui, il les traitait de race inférieure. Toutefois, il n'aurait pu vivre même 2 jours. Sur cette race inférieure. Dans la société des hommes, il s'ennuyait, se sentait mal à l'aise, se montrait taciturne et froid. Mais lorsqu'il se trouvait parmi des femmes, alors, il se sentait détendu, libre, il savait de quoi parler, comment se comporter avec elles, même le silence lui semblait naturel et facile. Il y avait dans son apparence, dans son caractère, dans toute sa personne, un charme indéfinissable qui disposait les femmes à sa faveur et les attirait à lui. Le savait, se sentait lui aussi attiré vers elle par une force inconnue. L'expérience, fréquemment renouvelée, réellement amère, lui avait appris depuis longtemps qu'avec les gens comme il faut, en particulier les moscovites, irrésolus et hésitants, toute liaison se présente d'abord comme une aventure plaisante sans histoire, puis qu'elle se transforme en un véritable problème compliqué à l'extrême, et qu'à la fin, la situation devient intenable. Mais chaque fois qu'il rencontrait une femme séduisante, cette expérience semblait lui glisser hors de la mémoire. Il se sentait l'envie de vivre et tout lui paraissait si simple, si amusant. Et voici qu'un soir, pendant qu'il dînait dans le jardin, la dame au béret s'approcha sans hâte, s'installa à la table voisine. Son expression, sa démarche, sa robe, sa coiffure, tout lui disait qu'elle faisait partie de la bonne société, qu'elle était mariée, qu'elle était venue seule et pour la première fois à Yalta et qu'elle s'y ennuyait. Les récits que l'on fait sur les mœurs dépravées qui règnent à Yalta sont en grande partie faux. Gourov les méprisait, savait bien que la plupart du temps il s'était inventé de toutes pièces. Pourtant, quand la dame s'assit à la table à côté, à 3 pas de lui, tous ses récits de conquêtes faciles, de promenades dans les montagnes lui revinrent à l'esprit. Et l'idée tentant d'une liaison rapide, fugitive, d'un roman avec une inconnue dont il ne connaissait même pas le nom, lui s'empara soudain de lui. Il attira le loulou d'un geste amical. Quand celui-ci se fit approcher de lui, il le menaça du doigt. Le petit chien poussa un grognement. La dame jeta un coup d'œil vers lui, baissa tout de suite les yeux. « Il ne mord pas, dit-elle. Peut-on lui donner un os ? Y a-t-il longtemps que vous êtes à Yalta ? 5 jours. Moi, ma 2e semaine tira sa fin. » Ce n'est que d'habitude de dire qu'on s'ennuie ici. Un petit bourgeois de province habite Belof ou Yzdra, chez lui, il ne s'ennuie pas, mais dès qu'il arrive ici, ah, quel ennui, ah, quelle poussière! Elle rit ensuite. Ils se remirent à manger en silence, comme des gens qui ne se connaissent pas. Mais après le dîner, ils s'en allèrent ensemble, ils se mirent à bavarder sur le temps joué, des gens qui se sentent libres, contents, acquis, peu importe où ils vont, de quoi ils causent, ils mâchèrent, parlèrent de la luminosité de la mer, parlèrent du soir étouffant après une journée torride. Gourov lui raconta qu'il était de Moscou. Il avait songé pendant un certain temps à devenir chanteur d'opéra. Il avait abandonné, possédait deux maisons à Moscou. Elle avait été élevée à Pétersbourg. Elle vivait à Est, où elle s'était mariée. Il y avait déjà 2 ans. Elle allait passer un mois à Yalta. Elle fut totalement incapable de préciser le poste qu'occupait son mari, si c'était dans l'administration du gouvernement, au conseil du gouvernement, et elle-même trouva ça drôle. Et Gourov apprit qu'elle se nommait Anna Sergeïevna. Et évidemment, leur aventure prend une tournure très charnelle, jusqu'au moment où Gourov regagne Moscou, persuadé que cette aventure de vacances, cette aventure de Yalta est terminée et qu'il n'aura plus à s'en occuper. Et puis, petit à petit, il réalise qu'en fait, Anna Sergeïevna continue à hanter son esprit.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня, не пища, и лети за ясным солнцем свет, и вальсу на дальнем пограничье, под Катюши передай привет. И вальсу на дальнем пограничье, под Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет.
Et Gourov va voir Anna Sergeïevna chez elle, dans la ville où elle habite avec son mari. Et puis finalement, ils réalisent qu'ils ne peuvent en fait pas se passer l'un de l'autre sans pouvoir vivre ensemble. Et Anna Sergeïevna commença à venir le voir à Moscou. 2 ou 3 fois par mois, elle quittait la ville, disant à son mari qu'elle allait consulter un professeur pour une maladie de femme. Son mari ne la croyait qu'à moitié. À Moscou, elle descendait au Slavianski Bazar et envoyait à Gourov un chasseur en casquette rouge. Gourov venait la voir. Personne à Moscou ne s'en doutait. Un matin d'hiver, il se rendit chez elle. Le messager était venu la veille et ne l'avait pas trouvé. Il était accompagné de sa fille qui voulait accompagner jusqu'au lycée. C'était sur le chemin, il tombait d'épais flocons de neige mouillée. Tout en parlant à sa fille, il songeait qu'il était en train de se rendre près d'elle, que pas une âme vivante n'était au courant, que personne sans doute ne le serait jamais. Il avait 2 vies, l'une se déroulant au grand jour, visible, connue de tous, soumise à une vérité de convention, à des illusions de convention, une vie en tout point semblable à celle de ses amis et relations. L'autre suivait son cours en secret, et par un enchaînement de circonstances bizarres et peut-être accidentelles, tout ce qui lui semblait important, intéressant, essentiel, tout ce en quoi il était sincère avec lui-même, ce qui constituait le noyau de son existence. Tout cela se passait à l'insu des autres. Par contre, ce qui en lui était faux ne représentait qu'une enveloppe dans laquelle il se cachait pour dissimuler la vérité, comme par exemple son travail à la banque, ses discussions au cercle, sa race inférieure, sa présence aux anniversaires. Tout cela s'étalait au grand jour. Aussi, jugeant les autres d'après lui-même, il ne croyait pas à ce qu'il voyait, mais supposait que chaque homme mène sa vraie vie, celle qu'il a plus intéressante, protégée par le secret comme par la nuit. Toute existence personnelle se maintient grâce au secret, c'est peut-être en partie pour cela que l'homme civilisé se préoccupe si anxieusement de faire respecter le secret de sa vie privée. Après avoir accompagné sa fille au lycée, Gourov se dirigea vers le Slaviansky Bazar, laissa sa pelisse en bas, monta, frappa doucement à la porte. Anna Sergeyevna, vêtue de sa robe grise préférée, fatiguée par le voyage, l'attente, guettait sa venue depuis la veille au soir. Elle était pâle, le regardait sans sourire. À peine fut-il entré qu'elle se jeta contre sa poitrine. Leur baiser fut lent, prolongé, comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Attends, dans un instant, je te dirai, je ne peux pas, elle ne pouvait parler, les larmes l'en empêchaient à se détourner. Il vaut mieux la laisser pleurer une bonne fois, je vais m'asseoir en attendant, pensa Gourov, il s'assit dans un fauteuil. Ensuite, il sonna, demanda du thé. Tandis qu'il buvait son thé, elle était toujours debout, tournée vers la fenêtre. C'était l'émotion qui la faisait pleurer, le chagrin de constater la triste façon dont s'organisait leur vie. Ils ne se voyaient qu'en cachette, à l'insu des gens, comme des voleurs. Est-ce bien une vie ? Il lui apparaissait clairement que leur amour n'était pas encore fini, qu'on ne pouvait en prévoir le terme. Anna Sergeyevna s'attachait à lui de plus en plus, elle le vénérait. On ne pouvait même pas envisager de lui dire que tout cela devrait prendre fin un jour. Elle ne l'eût pas cru. Il s'approcha d'elle, la prit par les épaules. Afin d'accajoler un peu de plaisanter, à ce moment-là, il se vit dans la glace. Il commençait déjà à grisonner. Il semblait étrange d'avoir tant vieilli. Les femmes l'avaient toujours vu différent de ce qu'il était en réalité. Elles avaient aimé en sa personne un homme qui n'était pas lui, un produit de leur imagination. Puis quand elles s'étaient aperçues de leur erreur, elles avaient continué de l'aimer quand même. C'était maintenant seulement, alors que ses cheveux étaient déjà gris, qu'il était réellement tombé amoureux pour la première fois de sa vie. Anna Sergeyevna et lui s'aimaient comme des gens très proches l'un de l'autre, des parents, comme mari et femme, comme de tantes amies. Il leur semblait que le destin lui-même les avait créés l'un pour l'autre. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Ils avaient, lui, une femme, elle, un mari. Ils étaient comme un couple d'oiseaux de passage, le mâle et la femelle, que l'on aurait capturé et condamné à vivre dans une cage, dans des cages séparées. Ils s'étaient pardonné ce dont ils avaient honte dans le passé, ils se pardonnaient tout pour le présent. Arrête-toi, tu as assez pleuré. Maintenant parlons un peu, essayons de trouver une solution. Ils se concertèrent lentement. Comment se libérer des contraintes insupportables ? Comment ? Comment, demandait-il en se prenant la tête à deux mains, comment ? Il lui semblait qu'il était tout prêt de trouver une solution et qu'alors commencerait une vie nouvelle, merveilleuse. Et tous deux se rendaient compte clairement que la fin était encore bien loin et que le plus compliqué, le plus difficile, ne faisait que commencer. Je vous remercie de m'avoir écouté.